Voltaire, lettre philosophique, première lettre sur les Quakers. J'ai cru que la doctrine et l'histoire d'un peuple si extraordinaire méritaient la curiosité d'un homme raisonnable. Pour m'en instruire, j'allais trouver un des plus célèbres Quakers d'Angleterre, qui, après avoir été 30 ans dans le commerce, avait su mettre des bornes à sa fortune et à ses désirs, et s'était retiré dans une campagne auprès de Londres. Je fus le chercher dans sa retraite. C'était une maison petite, mais bien bâtie, pleine de propreté, sans ornement. Le Quaker était un vieillard frais, qui n'avait jamais eu de maladie, parce qu'il n'avait jamais connu les passions ni l'intempérance. Je n'ai point vu en ma vie d'air plus noble ni plus engageant que le sien. Il était vêtu, comme tous ceux de sa religion, d'un habit sans plis dans les côtés et sans boutons sur les poches ni sur les manches, et portait un grand chapeau à bord rabattu, comme nos ecclésiastiques. Il me reçut avec son chapeau sur la tête et s'avança vers moi sans faire la moindre inclination de corps. Mais il y avait plus de politesse dans l'air ouvert et humain de son visage qu'il n'y en a dans l'usage de tirer une jambe derrière l'autre et de porter à la main ce qui est fait pour couvrir la tête. « Ami, me dit-il, je vois que tu es un étranger. Si je puis être de quelque utilité, tu n'as qu'à parler. » « Monsieur, lui dis-je en me courbant le corps et en glissant un pied vers lui, selon notre coutume, je me flatte que ma juste curiosité ne vous déplaira pas et que vous voudrez bien me faire l'honneur de m'instruire de votre religion. « Vous, les gens de ton pays, me répondit-il, font trop de compliments et de révérences, mais je n'en ai encore vu aucun qui ait eu la même curiosité que toi. Entre et dînons d'abord ensemble. » Je fis encore quelques mauvais compliments parce qu'on ne se défait pas de ses habitudes tout d'un coup. Et après un repas sain et frugal, qui commença et qui finit par une prière à Dieu, je me mis à interroger mon homme. Je débutai par la question que de bons catholiques ont faite plus d'une fois aux Huguenots. « Mon cher monsieur, lui dis-je, êtes-vous baptisé ?»« Non, me répondit le Quaker, et mes confrères ne le sont point. » « Comment, morbleu, repris-je, vous n'êtes donc pas chrétien ?»« Mon fils, repartit-il d'un ton très doux, ne jure point. Nous sommes chrétiens et tâchons d'être beaux chrétiens, mais nous ne pensons pas que le christianisme consiste à jeter de l'eau froide sur la tête avec un peu de sel. » « Et, ventre bleu, repris-je, outré de cette impiété, vous avez donc oublié que Jésus-Christ fut baptisé par Jean ?»« Ami, point de jurement, encore un coup, dit le bénin Quaker. Le Christ reçut le baptême de Jean, mais il ne baptisa jamais personne. Nous ne sommes pas les disciples de Jean, mais du Christ. » Hélas, dis-je, comme vous seriez brûlé en pays d'inquisition, pauvre homme. Et pour l'amour de Dieu, que je vous baptise et que je vous fasse chrétien. Oh, s'il ne fallait que cela pour condescendre à ta faiblesse, nous le ferions volontiers, repartit-il gravement. Mais nous ne condamnons personne pour user de la cérémonie du baptême, mais nous croyons que ceux qui professent une religion toute sainte et toute spirituelle doivent s'abstenir autant qu'ils le peuvent des cérémonies judaïques. « Oh, voici bien d'une autre, m'écriai-je, des cérémonies judaïques. »« Oui, mon fils, continua-t-il. Et si judaïques, plusieurs juifs encore aujourd'hui usent quelquefois du baptême de Jean. Consulte l'Antiquité. Elle t'apprendra que Jean ne fit que renouveler cette pratique, laquelle était en usage longtemps avant lui parmi les Hébreux, comme le pèlerinage de la Mecque l'était parmi les Ismaélites. » Jésus voulut bien recevoir le baptême de Jean, de même qu'il s'était soumis à la circoncision. Mais, et la circoncision et le lavement d'eau doivent être tous deux abolis par le baptême du Christ, ce baptême de l'Esprit, cette ablution de l'âme qui sauve les hommes. Aussi le précurseur Jean disait « Je vous baptise à la vérité avec de l'eau, mais un autre viendra après moi, plus puissant que moi, et dont je ne suis pas digne de porter les sandales. Celui-là vous baptisera avec le feu et le Saint-Esprit. » Ainsi le grand apôtre des gentils, Paul, écrivit aux Corinthiens « Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'Évangile. » Aussi ce même Paul ne baptisa jamais avec de l'eau que deux personnes, encore fût-ce malgré lui. Il circoncit son disciple Timothée, et les autres apôtres circoncisaient aussi tous ceux qui voulaient. « Es-tu circoncis ? » ajouta-t-il. Je lui répondis que je n'avais pas cet honneur. « Eh bien, dit-il, l'ami, tu es chrétien sans être circoncis, et moi sans être baptisé. » Voilà comme mon saint homme abusait assez spécieusement de trois ou quatre passages de la Sainte Écriture qui semblaient favoriser sa secte, mais oubliait de la meilleure foi du monde une centaine de passages qu'il écrasait. Je me garde bien de lui rien contester. Il n'y a rien à gagner avec un enthousiaste. Il ne faut point s'aviser de dire à un homme les défauts de sa maîtresse, ni à un plaideur le faible de sa cause, ni des raisons à un illuminé. Aussi, je passais à d'autres questions. À l'égard de la communion, lui dis-je, comment en usez-vous ? Nous n'en usons point, dit-il. Quoi, point de communion ? Non, point d'autre que celle des cœurs. Alors il me cita encore les Écritures, il me fit un beau, fort sermon contre la communion, et me parla d'un ton inspiré pour me prouver que tous les sacrements étaient tous d'invention humaine, et que le mot de sacrement ne se trouvait pas une seule fois dans l'Évangile. Pardonne, dit-il à mon ignorance, j'ai pas apporté la centième partie des preuves de ma religion, mais tu veux les voir dans l'exposition de notre foi par Robert Barclay. C'est un des meilleurs livres qui soit jamais sorti de la main des hommes. Nos ennemis conviennent qu'il est très dangereux, cela prouve combien il est raisonnable. Je lui promis de lire ce livre et mon Quaker me crut déjà converti. Ensuite, il me rendit raison, en peu de mots, de quelques singularités qui exposent cette secte au mépris des autres. « À vous, dit-il, que tu as eu bien de la peine à t'empêcher de rire quand j'ai répondu à toutes les civilités avec mon chapeau sur ma tête et en te tutoyant. Cependant, tu me parais trop instruit pour ignorer que du temps du Christ... aucune nation ne tombait dans le ridicule de substituer le pluriel au singulier. On disait à César Auguste, « Je t'aime, je te prie, je te remercie. » Il ne souffrait pas même qu'on l'appelât Monsieur, Dominus. Ce ne fut que très longtemps après lui que les hommes s'avisèrent de se faire appeler « vous » au lieu de « tu », comme s'ils étaient doubles, et d'usurper les titres impertinents de grandeur, d'éminence, de sainteté, que des vers de terre donnent à d'autres vers de terre, en les assurant qu'ils sont, avec un profond respect et une fausseté infâme, leurs très humbles et très obéissants serviteurs. C'est pour être plus sur nos gardes contre cet indigne commerce de mensonges et de flatteries, que nous tutoyons également les rois et les savetiers, que nous ne saluons personne, n'ayant pour les hommes que de la charité, et du respect que pour les lois. Ah, nous portons aussi un habit un peu différent des autres hommes, afin que ce soit pour nous un avertissement continuel de ne pas leur ressembler. Les autres portent les marques de leur dignité, et nous celles de l'humilité chrétienne. Nous fuyons les assemblées, le plaisir, les spectacles, le jeu, car nous serions bien à plaindre de remplir de ces bagatelles des cœurs en qui Dieu doit habiter. Nous ne faisons jamais le serment, pas même en justice. Nous pensons que le nom du Très-Haut ne doit pas être prostitué dans les débats des hommes. Et lorsqu'il faut que nous comparaissions devant les magistrats pour les affaires des autres, car nous ne l'avons jamais de procès, nous affirmons la vérité par un oui ou par un non, et les juges nous en croient sur notre simple parole. tandis que tant de chrétiens se parjurent sur l'Évangile. Nous n'allons jamais à la guerre. Ce n'est pas que nous craignions la mort, au contraire, nous bénissons le moment qui nous est ni à l'être des êtres. Mais c'est que nous ne sommes ni loups, ni tigres, ni dogmes, mais hommes, mais chrétiens. Notre Dieu, qui nous a ordonné d'aimer nos ennemis et de souffrir sans murmure, ne veut pas sans doute que nous passions la mer pour aller égorger nos frères, parce que des meurtriers vêtus de rouge, avec un bonnet haut de deux pieds, enrôlent des citoyens en faisant du bruit avec deux petits bâtons sur une peau d'âne bien tendue. Et lorsqu'après des batailles gagnées, tout Londres brille d'illumination, que le ciel est enflammé de fusées, que l'air retentit du bruit des actions de grâce, des cloches, des orgues, des canons, nous nous gémissons en silence sur ces meurtres qui causent l'allégresse publique.